7h25 minutes, bon mardi matin. Merci de commencer la journée avec la belle gang de Boulevard 102.1. Je le dis depuis le début de l'émission, je suis toujours très, très, très impressionné par le journalisme d'enquête. J'aime voir ces histoires-là dévoilées au grand jour, surtout quand plusieurs journalistes ensemble travaillent pour nous amener ces informations-là. Et tu le sais que ça a un impact réel dans la société. Quand cette nouvelle-là va sortir, tout le monde en parle. Et c'est le cas de l'histoire qui est sortie hier par rapport au gaspillage chez Dollarama. Un beau travail de journaliste d'enquête pour les coop de l'information. Et le journaliste Marc Allard est avec nous ce matin pour en parler. Marc, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va très... Merci, merci d'être là. Et à toi et toute l'équipe coop de l'information là, pour ce dossier-là. Félicitations, bravo.
Merci, merci.
C'est de toute beauté. Puis je veux qu'on en parle en long et en large. Pas juste du résultat et le après, mais peut-être le travail aussi pour en arriver là. Peut-être commencer en jasant un petit peu pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, le concept là, des coop de l'information?
Les coop de l'information, en gros, c'est un regroupement là, de 6 journaux régionaux. Donc, on a évidemment Le Soleil à Québec, oui. On a Le Nouvelliste à Trois-Rivières, Le Quotidien à Saguenay, on a Le Droit à Gatineau, on a La Voix de l'Est à Granby et on a La Tribune à Sherbrooke. Et tous ces journaux-là se sont regroupés. Et on a décidé de former une équipe d'enquête. Donc, il y a un représentant de chaque journal qui est dans l'équipe d'enquête. Et au Soleil, ben, c'est moi.
OK. Puis, je veux pas nécessairement que tu nous dévoiles les secrets de comment ça fonctionne, mais à quel moment, puis dans l'exemple du dossier Dollarama, là, comment ça fonctionne dans cette équipe-là, appelons-le l'équipe, qu'on sort une nouvelle, puis que tout le monde... tout le monde soit d'accord, oui, il faut absolument qu'on saute là-dessus et qu'on travaille là-dessus parce qu'on a quelque chose, on tient quelque chose.
En fait, c'est la troisième enquête de ce genre-là qu'on fait. On avait fait une première enquête sur Home Depot, sur le gaspillage chez Home Depot en 2022. On avait montré là, qu'ils jetaient beaucoup de produits neufs, des outils, des portes-fenêtres, puis même des électroménagers oui. là, qui cassaient à coups de pied de biche. Avant d'envoyer ça dans le conteneur. On avait fait aussi une enquête sur le gaspillage chez Couche-Tard, là, où on avait montré là, qu'ils jetaient beaucoup de boissons, là, même de l'eau de source là, encore pleine dans les conteneurs, une fois qu'ils voulaient faire le ménage sur les tablettes. Et là, on se doutait qu'évidemment, c'était un pattern là, qui se retrouvait dans d'autres entreprises. Et on a eu plusieurs indices là, de lecteurs et de sources qui nous ont dit « Allez donc faire un petit tour chez Dollarama ».
Aïe, aïe.
Et c'est ce qu'on a fait. Depuis 4 mois, là, on sort le soir quand les enfants sont couchés, puis on va faire un tour dans les bennes à ordures de Dollarama. On lève le petit capot, puis on regarde ce qui s'y trouve. Puis on a fait ça là, dans tout le réseau, donc à Québec et dans toutes les villes que j'ai nommées tout à l'heure. Puis c'est un peu ça, la force de notre réseau, c'est qu'on peut voir si le phénomène se produit non seulement à Québec, mais à peu près dans tous les coins du Québec. Puis donc, on a fait... les trouvailles que vous pouvez voir dans l'enquête.
Vous commencez cette enquête-là, vous allez fouiller dans les bacs à ordures, et là, c'est quel moment que vous vous dites « Hey, OK, on a vraiment quelque chose de gros. » Tu sais, c'est après, voilà, je vais le simplifier, là. C'est après combien de bacs à vidange que tu dis « Hey, tabarouette, ça, c'est de la bombe.
» Je pense que c'est vraiment le pouvoir de l'image aussi là, dans mm-hmm. ce type d'enquête-là. Là. On peut le voir dans le reportage. On a des photos où on voit, par exemple, presque 1 millier de chocolats qui ont été jetés après Pâques. Là. On voit des chandails qui sont encore sur les cintres qui ont été jetés. On a trouvé aussi des outils de jardinage. On a trouvé beaucoup de collations qui auraient pu garnir des boîtes à lunch. Bref, la liste est longue, là, mais je pense que c'est vraiment à partir du moment où visuellement, ça devient significatif, puis que les lecteurs peuvent voir l'ampleur du gaspillage, que là, on se dit, ça y est, c'est bon, on a quelque chose à publier. Mais c'est aussi quand on est en mesure de confirmer le gaspillage de l'intérieur, c'est-à-dire quand on a suffisamment de témoins, d'employés, d'ex-employés qui acceptent de nous parler, puis je peux vous dire que c'est pas facile de les convaincre.
Mm-hmm. C'est clair.
Et quand on a ça, là, on peut se dire, c'est bon, on publie.
Tu disais en plus, Marc, que l'image ou les images sont chocs. Tu sais, ça va chercher le lecteur, la photo, la description, l'explication, le texte. Encore plus, moi, j'ajouterais, là, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, tout coûte cher, l'inflation, les fils pour les banques alimentaires, les banques alimentaires qui ont de la misère à fournir. Je pense que dans le contexte de tout ça, c'est encore plus choquant pour le lecteur.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu le paradoxe de l'enquête. C'est-à-dire que Dollarama connaît un succès énorme en ce moment, justement parce qu'ils offrent des produits courants à bas prix. Mais ce qu'on a démontré dans l'enquête, c'est que derrière ce succès-là, il y a un grand gaspillage. C'est-à-dire que le modèle d'affaires de Dollarama est fait sur la base d'un roulement très, très intense. C'est-à-dire qu'il y a toujours du nouveau stock qui arrive. Puis à un moment donné, si c'est des produits, ce qu'ils appellent des produits sous-performants, ben too bad, ça s'en va aux poubelles. Donc, c'est vraiment ce modèle-là qu'on a pu démontrer là, à travers nos reportages, nos photos, nos témoignages.
Comment Dollarama explique ou est-ce que vous avez eu droit à des explications de Dollarama par rapport à acheter ça? Parce que moi, puis peut-être, je suis pas entrepreneur, mais je me dis à quelque part avec ton explication, là, si quelque chose se vend moins bien, donne-les presque. Tu sais, vends-les, je sais pas, vends du 5 pour 1, je le sais pas moi, mais tu sais, fais un motadine de bon deal là-dessus à place de juste le mettre dans le bac à ordures.
C'est difficile, je pense, pour Dollarama de vendre, disons, en liquidation parce qu'ils vendent déjà assez peu cher.
C'est vrai.
Par contre, ils pourraient effectivement, comme d'autres chaînes de commerce au détail le font, donner leur surplus de stock à des organismes. Sauf que c'est un modèle qui est justement basé sur un roulement très intense. Puis les employés nous disent, ben, on nous donne pas le temps de faire ça. Okay. Tu sais, y a déjà un gros roulement d'employés. On est dans le jus à longueur de journée. Si vous pensez qu'on a le temps de gérer des dons à des organismes, ça ne marchera pas, là. Sauf que ce qu'on peut remarquer dans d'autres pays, en France, par exemple, c'est que la seule manière qu'ils ont trouvé de forcer ces détaillants-là à ne pas gaspiller, c'est d'instaurer une loi anti-gaspillage qui oblige les commerçants à faire des ententes avec des organismes pour leur transférer la marchandise qui n'est pas vendue.
Crois-tu justement que les enquêtes comme vous avez faites, Home Depot, Couche-Tard, Dollarama, ça va mener à ce projet de loi-là? Parce que là, on a eu quand même une réaction forte du ministre de l'Environnement, Benoît Charest, hier, là, suite à votre enquête.
Je dirais pas que c'est une réaction forte, en fait, parce que c'est un peu la même réaction qui nous est servie là, depuis à la suite des trois enquêtes. Là. C'est-à-dire que, il dit qu'il est en colère, qu'il est indigné, que ça n'a pas de bon sens, mais dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'actions suivent les paroles. Par contre, il y a deux projets de loi déjà qui ont été déposés par les partis d'opposition. Donc, le Parti québécois a déposé une dernière mouture là, de son projet de loi anti-gaspillage qui vise à la fois le gaspillage alimentaire et les produits invendus. Et il y avait Québec solidaire l'an dernier qui avait déposé aussi un projet de loi qui visait spécifiquement les aliments gaspillés.
Puis en même temps, il y a un manque de volonté de la part de Dollarama. Tu sais, moi, j'en connais plein d'organismes, puis j'ai œuvré au sein d'organismes communautaires, j'ai géré des banques alimentaires. T'sais, Dollarama fait signe à l'organisme communautaire, là, il va débarquer avec son camion, puis il va ramasser le stock à 8 heures quand il met ça dans le conteneur, puis ça va être réglé. Là. Pas besoin d'une loi pour ça. Là.
C'est clair, là, c'est une question de volonté, d'organisation. Ça se fait déjà dans les épiceries. On avait déjà vu à l'époque beaucoup de reportages sur le gaspillage dans les épiceries. Ça existe sans doute encore, mais ça existe beaucoup moins parce que les épiceries se sont unies avec le réseau de banques alimentaires du Québec pour que justement les denrées invendues soient remises aux banques alimentaires. Donc ça représente beaucoup, beaucoup de gaspillage qui est évité, mais il suffit justement de s'organiser. Alors si Dollarama décider de faire la même chose, ben, je présume qu'il pourrait arriver à des résultats vraiment intéressants.
Vas-y, Rich.
Oh non, j'ai juste rappelé qu'on jase avec Marc Allard, qui est journaliste d'enquête pour le Soleil, il fait partie de la coop de l'information. Gros dossier qui est sorti hier par rapport au gaspillage chez les Dollarama. Et je voulais juste ajouter que un petit peu plus tard dans l'émission, on va jaser avec le député Joël Arsenault du Parti québécois de justement cette loi-là qui a été déposée anti-gaspillage.
Hey, je reviens sur le travail journalistique. Tu sais, quand ça fait la manchette comme ça à l'Assemblée nationale, puis que là, tous les partis d'opposition questionnent le gouvernement là-dessus, comment qu'on se sent comme journaliste d'enquête? On se dit, hey, wow, là, tu sais, je viens de... Tu sais, tantôt, j'appelais ça la médaille d'or, là, tu sais, je viens de gagner le 100 mètres aux Olympiques.
On se sent vraiment bien, je te dirais. On se sent bien parce que c'est vraiment beaucoup de travail. T'sais. C'est 4 mois d'enquête, 6 journalistes qui ont fouillé dans les poubelles, disons des petits irritants avec les familles qui font « Bon, tu sors encore à soir, tu vas encore fouiller des poubelles. »
Tu t'en vas encore d'évidence.
Fait que, t'sais, c'est un travail quand même vraiment purement de terrain. Là. Ouais. Fait que c'est assez... laborieux comme processus d'enquête, puis c'est assez stressant parce qu'évidemment, on s'attaque pas à n'importe qui, là. On s'attaque à une grosse corporation milliardaire. Donc, il faut s'assurer que notre travail soit béton. Mais quand ça sort, puis qu'on s'aperçoit que ben, finalement, Dolorama n'a pas grand-chose à dire pour contredire notre enquête, puis que les partis d'opposition, le gouvernement réagit, puis que ça suscite une discussion nationale sur la question du gaspillage, ben c'est sûr qu'on est vraiment, vraiment heureux.
Ben, bravo pour ce travail-là.
Merci.
Tu parlais d'irritation avec la famille. Tu te dis aussi que tu sortais le soir. Ça ressemble à quoi, mettons, une journée type quand tu fais de l'enquête comme ça? Est-ce que tu travailles la journée ou vraiment ton travail consiste vraiment à aller... Ben, je ne veux pas simplifier, mais aller fouiller des poubelles le soir.
La job de Marc, fouiller des poubelles. C'est ça, là. 4 mois de fouillage de poubelles.
Mais c'est très drôle parce que, tu sais, on blague un peu que ceux qui se joignent à l'équipe d'enquête, on leur dit, ben, j'espère que tu sais fouiller des poubelles parce que là, ça fait 3 enquêtes qu'on fait là-dessus, mais je vous rassure, c'est pas l'essentiel du travail. Mais on travaille, en fait, typiquement 2 jours, là. Mais sauf que le travail de journalisme, c'est un travail où ça demande de répondre au téléphone ou d'aller sur le terrain à peu près à n'importe quel moment de la journée. Là.
Ouais.
S'il y a une source qui veut te parler à 10 heures le soir, puis c'est le seul moment où c'est possible, ben, tu décroches le téléphone et tu lui parles.
Puis tu es uniquement sur le projet de l'enquête?
Moi, je suis affecté uniquement à l'équipe d'enquête.
Okay.
Évidemment, je collabore encore avec mes collègues du Soleil, là, mais vraiment, mon mandat, c'est l'enquête.
Ouais.
C'est
bon. Il doit y avoir quelques enquêtes, puis je dis ça, je dis rien, je ne connais pas le milieu, mais des fois, quelques enquêtes qui peut-être se chevauchent aussi là, par rapport au travail que vous avez à faire. Là.
Ben oui, tout à fait.
C'est ça,
tout à fait, puis tu sais, ça génère aussi beaucoup de réactions.
Ouais.
Donc là, mes collègues vont questionner les autorités à l'Assemblée nationale. On a des chroniqueurs qui réagissent sur le thème, tout ça. Fait qu'évidemment, oui, ça se chevauche.
Marc, j'ai aussi une question qui nous vient d'un auditeur. Il y a Ben qui nous demande par texto 88-971-1021. Puis je ne sais pas si tu as la réponse ou si vous avez eu la réponse dans l'enquête. Est-ce que c'est légal de ramasser du stock dans les conteneurs, dans les bacs à ordures des grandes entreprises comme ça? Et je pense que c'est une super question parce que quelqu'un qui est dans le besoin, qui entend parler de cette nouvelle-là, quelqu'un qui est dans le besoin, qui voit passer la nouvelle dans le soleil, se dit « Attends une minute, il y a tout ça dans un bac à ordures du Dollarama, dans ce cas-ci. Je vais aller faire un tour, moi, le soir, puis je vais aller en chercher, moi, un morceau de linge, un produit, un chocolat. » C'est-tu légal d'aller...
C'est légal à partir du moment où c'est jeté
okay.
dans une benne à ordures. Évidemment, c'est pas une pratique, disons, qu'on recommande... Mmh. Chaudement, là, parce que évidemment ça comporte des risques de sécurité.
Oui.
Là. Les gens qui font ça, là, qui fouillent dans les bennes à ordures pour en extraire des aliments encore bons, des marchandises, on appelle ça les dumpster divers. Là.
Oui.
Ça fait quand même un petit bout que ça existe. Et moi, j'ai fait une entrevue avec une dumpster diver de Trois-Rivières, par exemple, qui a eu un accident en fouillant dans une benne à ordures. Là. Le capot il a refermé sur la tête, puis... plusieurs dents de briser. Là. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Là. C'est pas a walk in the park, disons. Là. Fait que nous, on y allait quand même de façon sécuritaire. On y allait à 2 personnes. Il y a quelqu'un qui tenait le capot, qui s'assurait que tout était sécuritaire. Là. Donc, à faire attention quand même.
Je suis curieux. Tantôt, tu disais, bon, c'est pas une réaction forte du ministre de l'Environnement. Les autres dossiers que vous avez faits, puis là, mea culpa moi-même de ne pas avoir fait les suivis après, mais Home Depot, Couche-Tard, est-ce qu'il y a eu des changements dans les pratiques de ces entreprises-là?
Ils sont très discrètes, ces entreprises-là.
Ouais.
Hein? Des grosses corporations comme ça, c'est souvent le même pattern. Quand on les questionne, ils refusent les entrevues.
Mm-hmm.
Ils nous fournissent une déclaration par courriel très générale qui ne veut pas dire grand-chose. Puis après ça, quand on les questionne pour savoir ce qui est arrivé, ben, ils répondent pas. Par contre, j'ai su, entre les branches, là, avec des sources chez Home Depot, qu'après la publication de l'enquête, ils s'étaient bousculés pour trouver des organismes locaux là, pour pouvoir donner les marchandises. Donc,
il y avait une panique. Fait qu'il avait arrêté de fesser dans les laveuses.
C'est ça. C'est ça. Puis je pense que quand on publie ce genre d'enquête-là, à un moment donné, ça devient comme... Ça peut influencer la norme sociale. Puis ces entreprises-là sont quand même très sensibles à leur réputation puis à la perception qu'ils ont auprès du public. Donc, si il y a beaucoup d'enquêtes comme ça puis qu'on le révèle aussi, de façon aussi claire que dans notre enquête, bien, à un moment donné, il risque de changer. Là.
Marc, alors, félicitations, bravo. Marc, alors, est journaliste au Soleil et membre de la Coop de l'information, les différents journaux. Bravo à toi, mais... Bravo aussi et passe le mot, s'il vous plaît, à toute l'équipe pour ce dossier-là qui fait énormément jaser. Et petit rappel qu'on va jaser du côté politique de tout ça avec le député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois, Joël Arsenault, un petit peu plus tard dans l'émission. Du gros, gros, gros travail qui m'impressionne toujours en souhaitant que cette fois-ci, pas que les choses n'ont pas changé là, avec première enquête, deuxième aussi, là, mais en souhaitant, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans le contexte actuel qu'on a des files d'attente pas possibles aux banques alimentaires, l'inflation, tout coûte cher, ça brise le cœur puis ça fait mal au ventre de voir les images de tout ce qui est jeté dans ce cas-ci, dans les Dollarama. Donc, Marc, bravo pour ça puis merci d'être passé
pour
venir nous parler de ce grand dossier-là, un travail que je trouve tout à fait spectaculaire. Et fais-nous signe n'importe quand. Hein?
Certainement.
On reste en contact, là, peu importe, là, pour les prochains dossiers des coops de l'information. Courte pause et ensuite, Denis passe nous voir cet après-midi, j'ai dit ce soir, mais c'est cet après-midi, 16h. On nous présente cette super discussion, Denis, avec les trois amigos. Je parle bien sûr du monde de la politique, puis pas le vieux film avec Martin Short et compagnie. Vous êtes à Rage Against le matin, Boulevard 102. Un bon mardi tout le monde. Boulevard.